France Culture.
Le journal est signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'onde de choc des droits de douane version Trump se fait ressentir partout dans le monde, à commencer par les places financières qui plongent aujourd'hui un peu partout. La Chine décide des taxes à 34% pour l'importation des produits américains. C'est un revirement, nous expliquera Sébastien Berriot. Donald Trump, lui, persiste et signe « Je ne changerai jamais de politique », dit-il. L'armée israélienne déclenche une offensive terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Nous rejoindrons Michel Paul à Jérusalem. La Birmanie compte ses morts après le séisme qui l'a frappé la semaine dernière. L'aide peine à parvenir aux habitants et pendant ce temps, l'armée birmane continue ses opérations militaires contre les opposants. Explication de Jérémy Lange. En France, Alstom annonce 150 millions d'euros d'investissement. Le temps presse pour honorer les commandes de son train à très grande vitesse. Et puis les évêques de France mettent en place un dispositif d'aide aux victimes majeures de violences sexuelles. Mais on est loin de ce qui existe déjà pour les mineurs, nous expliquera Emeline Bonavent. C'est une mécanique provoquée par la déclaration de guerre commerciale par Donald Trump qui se met en branle 48 heures après l'annonce par le président américain de droits de douane réciproques partout dans le monde. Les bourses plongent encore un peu plus qu'hier. Les places financières européennes, par exemple, baissent de 4 à 6%. Wall Street chute également cet après-midi. D'autant qu'il est arrivé ce que bon nombre de spécialistes craignaient. La Chine, la grande puissance mondiale concurrente, a riposté ce matin en imposant à son tour des taxes de 34% sur toutes les importations de biens américains. 34%, c'est le taux imposé par Washington aux produits chinois. C'est donc une réponse chinoise très ferme et un changement de pied, Sébastien Berriot.
Au terme d'une journée fériée ici en Chine, c'était la fête des morts, réponse simultanée de plusieurs ministères à Pékin qui ont envoyé en début de soirée une salve de communiqués marquant un changement clair de la stratégie du Parti communiste. Jusqu'ici, le régime de Xi Jinping avait opté pour une posture modérée, avec des représailles ciblées uniquement sur certains produits américains et avec des droits de douane limités. Là, Pékin passe au stade supérieur, 34% de taxes en plus, et surtout, les nouveaux droits de douane vont s'appliquer à l'intégralité des produits exportés par les États-Unis vers la Chine, charbon, pétrole, soja ou encore équipements médicaux. Des mesures identiques à la virgule près à celle de Donald Trump, signe que Pékin est désormais dans un esprit de confrontation directe, même si l'impact pour l'économie américaine restera limité. Le volume des ventes dans le sens États-Unis-Chine n'atteint pas les 170 milliards de dollars par an, contrairement aux exportations chinoises dans l'autre sens, qui dépassent les 500 milliards de dollars.
Sébastien Berriot à Pékin, réponse de Donald Trump à la Chine. La Chine a paniqué, écrit-il. Le président américain qui demande également à la Fed de baisser les taux d'intérêt. Son président Jerome Powell indique ce soir qu'il est trop tôt pour ajuster à la politique monétaire. Il affirme également que les droits de douane annoncés par Donald Trump vont probablement alimenter l'inflation dans les trimestres à venir et des effets plus persistants sont possibles. Voilà environ deux semaines que les bombardements israéliens sur Gaza ont repris, alors que les tractations sur la prolongation de deux mois de trêve avec le Hamas semblent enlisées. Et voilà maintenant que l'armée israélienne lance une nouvelle offensive terrestre à Gaza-ville, en tout cas dans le nord de Gaza. Les opérations interviennent après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir accentuer la pression sur le Hamas. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Les opérations militaires israéliennes ont fait 30 morts dans la bande de Gaza et ce n'est pas un bilan définitif selon la défense civile à Gaza.
Oui, c'est en tout cas une nouvelle offensive qui se déroule plus précisément depuis la nuit dernière dans le secteur de Shejaïa, un des plus grands quartiers de Gazaville. Un porte-parole militaire a indiqué dans la matinée qu'Israël a éliminé des combattants du Hamas et détruit des infrastructures, notamment un centre de commandement. Auparavant, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne avait ordonné l'évacuation de la population civile de l'est de la ville de Gaza. Cela après un tir de roquette intercepté en direction du kibboutz frontalier de Nahal Oz. Alors l'objectif à ce stade, élargir la zone de sécurité qu'Israël entend désormais contrôler dans l'enclave palestinienne. Nous augmentons la pression étape par étape pour qu'ils nous rendent nos otages, a affirmé il y a quelques jours Benjamin Netanyahou. Et tant qu'ils ne les rendront pas, la pression augmentera, a-t-il ajouté.
Michel, l'armée israélienne affirme avoir tué un journaliste palestinien.
Oui, Israël a confirmé avoir tué Mohamed Salah El-Bardawil, un journaliste de la radio Al-Aqsa, une radio affiliée au Hamas. Israël l'accuse d'avoir joué un rôle central dans l'appareil de propagande de l'organisation palestinienne et d'avoir produit des vidéos dans lesquelles des otages israéliens étaient mis en scène. Le ministère de la Santé palestinien affirme qu'il a été tué mardi dernier avec sa femme et ses trois enfants.
Merci Michel Paul, correspondant de RFI pour France Culture en direct de Jérusalem. Et puis j'ajoute cette lettre écrite par le chef du Shin Bet Ronen Bar, rendue publique aujourd'hui. Il écrit que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, lui a demandé de produire un avis qui permettrait d'espacer ses comparutions devant le tribunal le jugeant pour corruption. Réponse à l'instant de Benjamin Netanyahou, les accusations du chef du Shin Bet sont un tissu de mensonges. Fin de citation. Il y a des conflits qui s'arrêtent momentanément en cas de catastrophe naturelle. Et puis, il y a les autres. En Birmanie, le séisme qui a ravagé le pays et qui a provoqué la mort d'au moins 3000 personnes n'a pas empêché la junte de poursuivre ses opérations militaires contre ses opposants. La junte qui continue également de recruter de force des civils en pleine opération de secours, dénonce l'ONU. Jérémy Lange.
Larguer des bombes après un séisme est tout simplement ahurissant, a dit le rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie. Recruter des soldats en pleine zone ravagée l'est tout autant, pourrait-on ajouter. La pratique est devenue courante en Birmanie et elle ne s'est pas arrêtée avec le séisme, explique James Rodever du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Ça fait plus d'un an que la junte fait du recrutement forcé, mais on a été assez surpris de voir que ça avait encore lieu en ce moment. Ou bien les gens ont été enrôlés de force, ou bien ils ont été assignés aux travaux forcés. Ça s'est passé dans au moins 4 localités touchées par le séisme.
Le recrutement forcé qui continue, les attaques contre les groupes rebelles également. Depuis vendredi 28 mars, jour du séisme, la junte a mené au moins 61 opérations militaires. Certaines ont eu lieu quelques heures seulement après le tremblement de terre. Des frappes aériennes avec des avions, mais aussi, c'est devenu une spécialité de la junte, avec des parapentes motorisées qui larguent des bombes sur des zones peuplées de civils, considérées comme des soutiens de la rébellion. Quant à l'aide humanitaire, eh bien, elle arrive timidement et pas partout. La junte restreint son acheminement dans les zones qui échappent à son contrôle.
Jérémy Lange pour RFI France Culture. Le constructeur ferroviaire Alstom annonce aujourd'hui un plan d'investissement de 150 millions d'euros en France. Le groupe veut répondre à une demande croissante en train à très grande vitesse, avec 1000 embauches à la clé en 2025. Le carnet de commandes est très chargé. On compte plus de 200 trains à livrer pour la France, le Maroc, notamment. Le tout pour un montant total de commandes de plus de 90 milliards d'euros. Bonsoir Marie-Aimée Copleutre.
Bonsoir Nicolas.
L'entreprise a pris du retard ces dernières années. C'est une course contre la montre qui est engagée. Ces 150 millions étaient vraiment nécessaires.
Presque indispensable si Alstom ne voulait pas augmenter son retard de livraison, notamment pour son activité principale, la construction de ces 115 TGV nouvelle génération commandé par la SNCF il y a 9 ans. Appelé TGV M comme Made in France, il devait initialement sortir d'usine en 2023, puis 2024. Finalement, leur livraison se fera en 2026. Ainsi, pour ne pas risquer un délai supplémentaire, Alstom investit la majorité de ses 150 millions d'euros dans l'augmentation de la production de ces TGV. L'argent va aller sur les 3 sites français, Belfort, La Rochelle et Valenciennes. À Belfort, un bâtiment de 250 mètres va être construit pour augmenter les tests de mise en service du TGVM. À La Rochelle, les lignes de chaudronnerie et d'assemblage des trains vont être doublées. Et puis à Valenciennes, et c'est là sans doute l'annonce la plus marquante de ce nouveau plan d'investissement, une toute nouvelle première ligne d'assemblage de trains à grande vitesse va être créée. Un tournant pour cette usine qui jusqu'ici fabriquait seulement des métros et des trains régionaux.
Marie-Aimée, comment réagissent les syndicats face à cette annonce?
Eh bien, c'est plutôt bien accueilli sur les 3 sites à Belfort. Le syndicat CFDT évoquait une annonce rassurante. Même discours pour Vincent Josniak de Force Ouvrière. Il représente le site de Valenciennes Petite Forêt dans les Hauts-de-France, là où une nouvelle ligne de TGV va être implantée.
C'est des bonnes nouvelles. Franchement, je ne pense pas croiser quelqu'un qui va me dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça rassure d'un point de vue pérennité de l'établissement, en fait. Et puis d'acquérir des nouvelles compétences par rapport à Petite Forêt.
Et concernant les 1000 embauches supplémentaires en France annoncées par la direction, pour l'instant, aucune précision sur ces recrutements. Contactée, la direction nous annonce qu'il est trop tôt pour annoncer la répartition entre les types d'emplois. Elle clarifie son annonce. Sur les 1000 embauches, certaines se feront en CDI, d'autres en CDD, en fonction des besoins.
Merci Marie-Aimée Copleutre. Faire de l'incarcération la règle plutôt que l'exception, soit la prison plutôt que le bracelet électronique, c'est ce que propose le texte de loi présenté à l'Assemblée par le groupe Horizon et adopté par les députés hier soir. Le texte revient sur l'interdiction des peines d'emprisonnement inférieures à un mois et sur l'aménagement obligatoire des peines inférieures à un an. Ces deux dispositions, introduites d'ailleurs par le gouvernement d'Édouard Philippe en 2019, eh bien ces deux dispositions sont aujourd'hui remises en question. Horizon considère que les courtes peines seraient efficaces pour lutter contre la récidive, qui est aujourd'hui de 60%. En mettant l'accent sur les courtes peines purgées en maison d'arrêt, le texte risque d'y aggraver la surpopulation, ce qui inquiète l'Observatoire international des prisons. Jeanne Stémar.
Le 1er mars 2025, la densité carcérale en maison d'arrêt a atteint 159,9%. L'OIP l'affirme, la France n'a jamais connu une telle situation. Pour Mathieu Quinquis, président de l'association, il est impensable d'accueillir davantage de détenus dans des cellules dont les conditions sont déjà, comme il l'explique, inhumaines et dégradantes.
Ils sont incarcérés à deux ou à trois, parfois même à plus. C'est des personnes qui sont contraintes de faire les moindres gestes de leur vie quotidienne à la vue et au su de leurs codétenus, que vous êtes en réalité en train de faire vos besoins à quelques centimètres de l'endroit où vous préparez vos repas, à un ou deux mètres du lit sur lequel se tient votre codétenu.
Pour pallier à la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, a lancé un appel d'offres pour construire rapidement et à moindre coût des structures modulaires censées créer 15 000 nouvelles places pour des courtes peines. Une solution qui n'en est pas une pour le président de l'OIP.
La construction de nouvelles places de prison n'a jamais permis de répondre aux problèmes de surpopulation carcérale. C'est pas une fatalité. C'est le résultat de politiques publiques et de politiques pénales qui favorisent l'incarcération.
Les porteurs du texte l'affirment, les courtes peines ont une incidence sur la récidive grâce au choc carcéral. Mathieu Quinquis y dénonce un fantasme.
C'est un fantasme dans le fait de croire qu'il suffirait seul à résoudre tous les facteurs qui ont conduit la personne en détention. C'est pas un choc carcéral qui va régler des problèmes d'addiction, qui va permettre à la personne de s'insérer. C'est pas un choc carcéral qui va permettre à la personne de comprendre les raisons pour lesquelles elle est violente à l'égard de son conjoint ou de sa conjointe, de ses enfants.
Le président de l'Observatoire international des prisons défend l'utilisation des peines alternatives comme le bracelet électronique ou la prise en charge par des structures d'accompagnement socio-éducatives.
La proposition de loi du groupe Horizon doit encore passer devant le Sénat. La justice judiciaire n'est pas compétente pour apprécier une décision prise par la justice de l'Église. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un diacre défroqué par un tribunal ecclésiastique après avoir été accusé de viol. La plus haute juridiction judiciaire avait été saisie par cet homme qui avait été démis de ses fonctions religieuses après avoir été incriminé par une paroissienne pour des faits qu'il conteste. La Cour estime qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité ou le bien fondé des décisions prises par une autorité religieuse de nommer ou révoquer ses ministres du culte, ni de connaître des demandes d'indemnisation du préjudice matériel que cause la perte de fonctions religieuses. Fin de citation. Les violences sexuelles, l'un des sujets majeurs de l'Assemblée de la Conférence des évêque de France à Lourdes, l'Église catholique a décidé de lancer un processus d'écoute et d'accompagnement des victimes majeures. Bonsoir Emeline Bonavent.
Bonsoir.
Jusqu'à présent, les dispositifs créés l'étaient pour les victimes mineures et pouvaient proposer une réparation. C'est ici très différent.
Oui, les évêques ne souhaitent pas créer une justice différente. Pas de réparation, donc, comme pour les instances mises en place pour les victimes mineures au moment des faits. La question d'indemnisation financière a été écartée dans une note confidentielle que nous avons pu consulter. Les évêques estiment qu'en raison des budgets différents au sein des diocèses, il n'est pas possible de verser la même somme à tous les plaignants. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président sortant de la conférence des évêques, a donc annoncé cet après-midi la création dans tous les diocèses de cellules d'écoute pour accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire et pour les plaignants qui ne pourraient pas agir en justice à cause de la prescription des faits ou du décès de la personne qu'ils accusent. Ils pourront discuter dans un cadre sécurisé avec le diocèse ou le mis en cause si c'est possible grâce à des médiateurs professionnels. Pour certains évêques, cette médiation restaura administrative répond aux demandes des plaignants majeurs, mais sans aller aussi loin que pour le système des mineurs, très débattu au sein de la communauté catholique. Les opposants estiment que ce dispositif ne respecte pas la présomption d'innocence. L'enquête pour les faits prescrits se base sur la vraisemblance des actions décrites plutôt que sur des preuves, et la contradiction n'est pas possible dans les cas où le mis en cause est décédé. Pour l'association de victimes Mouv' Enfants, ce dispositif est aberrant. Elle ne comprend pas pourquoi la responsabilité systématique prévue pour les victimes mineures ne s'applique pas.
Merci Emeline Bonavent. Malaise chez les pompiers. Près d'une centaine de pompiers ont engagé des procédures contre leur hiérarchie dans 35 départements. C'est le chiffre inquiétant du syndicat des sapeurs-pompiers volontaires de France, révélé aujourd'hui par la cellule d'investigation de Radio France. Bonsoir Anne-Laure Barral.
Bonsoir.
Vous avez enquêté sur les causes de ce grand malaise chez les sapeurs-pompiers, où de nombreuses procédures concernent des faits de harcèlement moral, mais aussi sexuel.
Oui, Angela a demandé la réouverture de son dossier disciplinaire aux pompiers du Pas-de-Calais suite à sa suspension en 2022 parce qu'elle n'avait pas réussi à assurer ses gardes. Il faut dire que la jeune pompier volontaire de 22 ans subissait à l'époque des remarques et des gestes déplacés de la part de certains de ses collègues. Une nuit, elle prend peur et ne veut plus partir en intervention avec eux.
Alors déjà, à plusieurs reprises, il y a donc notamment les personnes qui me harcelaient, qui sont rentrés en ouvrant la porte, sans frapper, sans rien, dans les chambres. Des propositions de « t'inquiète, je vais te réchauffer, ah, puis t'es tout seul ce soir, on va pouvoir partager la chambre, on va pouvoir aller dans les douches ».
Angela a porté plainte, mais la police a finalement classé l'affaire faute d'éléments probants contre ces harceleurs. Sauf qu'aujourd'hui, les mêmes pompiers sont sous le coup d'une nouvelle enquête, cette fois pour vol de matériel à l'ancienne usine de Saint-Exime de Calais. Là encore, les pompiers mis en cause n'ont pas été sanctionnés, mais leur état-major nous a affirmé qu'il prendrait les mesures nécessaires en fonction des résultats de ces enquêtes internes.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enquêtes internes pour des faits de harcèlement chez les pompiers aujourd'hui ?
Alors c'est difficile à dire, une trentaine de départements n'a toujours pas de cellule de signalement de ces faits de harcèlement. Et même là où elles existent, elles sont parfois instrumentalisées, comme l'explique Pascal qui a voulu signaler les insultes proférées par un officier contre ces hommes. Mais son directeur l'en a empêché. Pascal n'a pas voulu donner publiquement son identité, nous avons donc transformé sa voix.
Moi, j'avais dit au directeur, lui qu'on est au courant des faits. Dans le cas de cette insulte par l'officier supérieur, il faut déclencher la cellule de signalement, qui est une enquête interne, qu'on connaisse aussi les raisons qui ont amené à cette situation, qu'on protège les agents, etc. Et le directeur a complètement refusé de mettre sur pied cette cellule interne de signalement.
Se plaindre de ses conditions de travail, dénoncer des pratiques illégales chez les pompiers ne semble donc pas facile. La multiplication des procédures pose question au sociologue Romain Pudal, directeur de recherche au CNRS et auteur d'un ouvrage sur les pompiers.
Ce à quoi ça devrait faire réfléchir, c'est cette question de maltraitance institutionnelle. C'est-à-dire que si on sort de l'idée d'un cadre qui serait particulièrement, vicieux, très autoritaire, mais si on commence à avoir des nombres assez élevés, ça veut dire que concrètement, structurellement, la situation est de moins en moins tenable.
Et en effet, nous avons trouvé des procédures dans plus d'une trentaine de départements de pompiers de tout grade contre leur hiérarchie, alors qu'ils l'avaient jusque-là toujours respectée.
Merci Anne-Laure Barral. Votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. Il existe depuis 1979 et ce sera ce soir le début de sa 47e édition. Il s'agit du Festival international du film de femmes de Créteil. Mais c'est un festival en danger. Cette année, il doit faire face à une forte baisse de subventions de la part du département du Val-de-Marne, un quart de son budget. Pour maintenir cette édition, il a donc fallu se tourner vers le public et sa directrice, Jackie Buet, réfléchit désormais à de nouveaux projets pour les prochaines années.
Alors, on a fait appel aux dons et là, on va relancer l'appel aux dons pendant la période du festival. On a prévu d'ailleurs également une rencontre avec le public et les professionnels le mercredi 9 pour dialoguer, avoir un petit peu le retour du public sur la manifestation et envisager de constituer un comité de soutien. On anticipe pour les prochaines années en espérant que nos partenaires fidèles continuent à nous soutenir. On a de très, très beaux projets, notamment de travailler sur l'itinérance du festival toute l'année, axé évidemment sur les problèmes majeurs que sont les violences conjugales, les féminicides. Et on va tourner dans les villes du département et d'Île-de-France. Donc on fera de la transhumance. Et là, il faut un petit peu de moyens. Au fil de l'évolution de ces 47 années, tout ce qui pouvait se déclencher du côté des femmes et des droits des femmes, ça a été toujours l'objectif du festival, l'intégrer dans le discours des professionnels et répercuter donc ces évolutions et cette façon pour les femmes de prendre en main leur émancipation. On ne va pas lâcher, hein. On ne va pas lâcher le travail des femmes qui commence à porter ses fruits, puisque on a quand même maintenant 3 femmes qui ont eu la palme d'or à Cannes. C'est pas beaucoup. Faut encore renverser la vapeur.
Jackie Buet avec Fiona Mogadam. Le Festival international du film de femmes se tient à Créteil jusqu'au 12 avril. Un mot du temps, demain, des averses sur le sud-ouest et ailleurs, du soleil qui va dominer toute la journée. Toujours une grande douceur généralisée. L'après-midi sera très doux avec des températures qui iront de 20 à 24 degrés, de 15 à 19 degrés sur les côtes de la Manche. Ce journal est désormais terminé. À la technique, Ludovic Auger.